Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, ça y est, on y est, on l'attendait. Roland-Garros, c'est parti pour 15 jours. Et autant vous le dire tout de suite, ça fait plaisir. Je suis Adrien Yo et dans ce podcast quotidien, on vous promet de l'analyse, de l'expertise, de la bonne humeur avec notre consultante Camille Pain. Salut Camille.
Salut Adrien, salut à tous.
Camille qui est à Roland-Garros, qui a commenté deux matchs aujourd'hui sur le cours Simone Mathieu. Ça a été, ça faisait plaisir de retrouver le goût du commentaire.
Jamais été aussi heureuse de commenter quasiment 7 heures dans la journée, Adrien. Ça y est, il faisait beau, il y avait du public, il y avait une superbe ambiance sur ce cours qu'aiment particulièrement les Français. Donc j'étais ravie d'y être.
Peut-être pas trop aujourd'hui, hein, quand même, hein. Faut pas se mentir.
Ils ont pas. Pour l'instant, on aimerait bien une victoire française, effectivement.
À nos côtés également, les journalistes d'Eurosport, Laurent Vergne et Bertrand Milliard. Vous étiez aussi du côté de la porte d'Auteuil toute la journée. Et j'ai senti tout au long de la journée dans nos échanges sur WhatsApp un plaisir non dissimulé, n'est-ce pas messieurs ?
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous, oui, très très heureux évidemment de retrouver Roland Garros, d'autant que l'année dernière je n'y étais pas allé, donc ça fait effectivement très très plaisir de retrouver un stade complètement nouveau. On ne reconnaît pas tout parce que tout a été refait, déjà le central entièrement, mais aussi il y a le cours numéro 1, il y a plein de nouveautés. Et en plus il faisait très beau aujourd'hui, il faisait une température agréable, donc très très heureux effectivement de pouvoir retrouver Roland Garros.
Une fois n'est pas coutume, tu voulais dire, pour le beau temps. Sur les débuts de Roland-Garros, bah, c'est pas toujours le cas.
Ouais, il y a une semaine de décalage, c'est peut-être pour ça, on aura peut-être plus de beau temps cette année.
C'est quand même mieux Roland-Garros au mois de mai-juin que le mois de septembre-octobre.
On va pas se mentir, c'est vrai. Dans ce podcast, vous retrouverez tous les jours plusieurs séquences, le débat du jour, la question qui fâche, la stat de constance du compte Twitter Je sais tes maths, et puis l'affiche à suivre du lendemain. C'est parti pour Terre débattue. Alors le débat du jour, il va concerner Dominique Thiem. Dominique Thiem qui s'est incliné en 5-7 face à Pablo Andújar, 68e joueur mondial. Pourtant, l'Autrichien qui menait 2-7 à 0. Dominique Thiem qui a vraiment beaucoup de mal, qui n'y arrive plus depuis un bout de temps maintenant, depuis sa victoire à l'US Open. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. On va se poser cette question. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est très grave, docteur Laurent?
Alors moi, j'avais fait un papier avant son match que j'avais appelé Thiem. C'est grave, docteur, point d'interrogation. Là, je pense qu'on peut dire que oui, quand même. Pour Thiem, double finaliste à Roland-Garros, qui est sur ses 5 dernières années le deuxième meilleur joueur du monde sur terre battue derrière Rafael Nadal. Je pense qu'on peut le dire. On peut même le mettre au-dessus de Djokovic. Il a battu quand même deux fois à Roland. Perdre au premier tour contre Pablo Andújar, même si c'est un joueur solide, après avoir mené 2-7-0, et puis le niveau de jeu affiché par Thiem aujourd'hui était vraiment quand même, même quand il menait 2-7-0, c'était pas du grand Thiem, vraiment pas. Donc oui, je pense que c'est inquiétant, et moi, quand il était revenu à Madrid, il avait quand même fait une demi-finale, c'était pas du super Dominique Thiem, mais pour un tournoi de reprise, c'était quand même pas trop mal. À Rome, c'était pas catastrophique non plus contre Sonego, il perd en quart, il a balle de match. Mais à Lyon contre Cameron Norrie, j'ai l'impression que Lyon lui a fait finalement plus de mal qu'autre chose. Il a fait un match catastrophique contre Norrie. Et là, aujourd'hui, il était un peu sur cette lancée-là. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de problème physique. En tout cas, lui, il dit que non. C'est un problème de confiance. Voilà. Ce n'est pas un problème d'envie. Hein. Il dit qu'il avait envie, qu'il était motivé. Mais il n'y arrive pas. Quoi.
C'est encore pire.
Ouais, c'est encore pire, Bertrand.
C'est ça, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a une raison, mais pour l'identifier et pour trouver le remède, c'est très, très compliqué.
Mon diagnostic à moi, c'est que c'est très grave parce que on connaît tous Dominique Thiem, c'était un rouleau compresseur sur terre battue notamment. C'est un joueur qui pouvait mettre son adversaire comme ça, l'étouffer avec des coups extrêmement puissants, qui faisait très mal, qui pouvait déborder les adversaires rapidement. Là, de temps en temps, il y a une fulgurance, il y a évidemment un joli revers long de ligne ou un très joli point. Mais dans l'ensemble, moi, il me semble complètement perdu sur le cours. J'ai vu le match aujourd'hui, même après avoir gagné les deux premiers sets, il ne jouait pas bien dans les deux premiers sets. C'était vraiment déjà pas du tout le meilleur Dominique Thiem, il ne jouait pas bien. C'est assez logique ce qui s'est passé par la suite. Il n'a plus aucune lucidité, je trouve, sur le court. Effectivement, il a l'envie, et c'est ça le pire. Il a l'envie, on le sent, parce qu'il s'encourage, etc. Mais il n'a plus ce qui faisait de lui un joueur qui est, comme l'a dit Laurent, un des deux meilleurs sur terre battue. Et ça, c'est terrible, parce que comment il va le retrouver ? Il a atteint son objectif l'an dernier en gagnant un grand chelem. Par un coup, il a bien rejoué. Il a très bien joué au Masters, notamment. On va dire que c'est son seul très bon tournoi depuis l'US Open gagné. Mais sinon, c'est dingue, parce que c'est un joueur qui a coulé. Quand on voit le niveau qu'il avait ici à Roland-Garros sur les dernières éditions, pas l'année dernière, parce qu'il était déjà en train de couler l'année dernière, malheureusement, mais les deux d'avant, c'était un monstre. Et là, il est en train de...
Enfin, l'année dernière, il perd en 5-7 contre Schwartzman, en quart. C'est pas comparable.
C'est pas comparable, parce qu'il est en train de couler, et il coule de plus en plus.
Enfin, il coule.
Mais c'était pas du bon Dominic Thiem. Alors, on pouvait mettre ça sur le compte de la fatigue post-US Open, etc. C'est logique. Mais déjà, il y a des failles dans son jeu qu'il n'avait pas avant. Et là, elles sont de plus en plus criantes. Et aujourd'hui, Pablo Ondura, c'est un bon joueur de terre battue, mais il a 35 ans, il n'a jamais rien fait en grand chelem. Lui-même est surpris et lui-même profite en ce moment, d'ailleurs, y compris à Genève, de battre les tout meilleurs joueurs du monde grâce au fait qu'il ne soit pas au top. Mais moi, je pense que c'est très grave. Et comment ça va revenir ? Camille, il l'a vu à Lyon, on va peut-être nous en dire un peu plus, mais... comme c'est pas l'envie, comment ça va revenir la confiance, comment il va la retrouver? J'ai du mal à trouver les clés.
Camille, quel est ton diagnostic?
Donc j'étais effectivement avec lui la semaine dernière à Lyon, où j'étais sur le terrain mais aussi au practice desk. Donc je ne vais pas dévoiler des choses intimes des joueurs, ce n'est pas mon rôle. Juste ce que je peux vous dire, c'est qu'à Lyon, avant son match, on sentait qu'il pouvait se faire sortir au premier tour par Norrie. Moi, je ne dirais pas à Bertrand qu'il a envie. Moi, c'est un de mes joueurs préférés, donc ça me fait mal, mais profondément, de dire ça. Je n'ai pas l'impression qu'il ait réellement envie, parce qu'avec le style de jeu qu'il a, c'est pas possible de passer de ce niveau-là à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il a envie, évidemment, parce que c'est un joueur pro, que c'est une chouette personne, je pense qu'il a perdu cette niaque qui fait qu'avec son style de jeu, sans niaque, il ne peut pas y arriver. Et donc, moi, je l'ai vu à Lyon, très peu impliqué, comme il savait l'être. À l'époque, il y avait le tournoi de Nice où il s'entraînait, mais quatre fois plus que les autres. Il finissait un match, il s'entraînait deux heures avec Günter Bresnik. Et moi, je l'analyse plus comme, je crois qu'il a tellement donné qu'il est en train de décompresser. Et quand un joueur comme ça décompresse avec son style de jeu, eh ben, il devient un joueur moyen. Et je pense que c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il y a un moment il va rebondir, mais quand est-ce que quel temps il va perdre justement à décompresser de ces années très intenses avec Günter Bresnik, ça on ne sait pas, et c'est peut-être ça qui est inquiétant. Mais je pense que ça va revenir, mais il est juste en train de digérer tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est tout petit, où il a tout donné pour le tennis, et peut-être qu'il souffle aussi mentalement.
Mais alors après, donc l'impression que ça donne, c'est peut-être pour lui, la solution, je pense que la solution, ce serait de couper. Moi, je serais lui, je n'irais pas sur gazon. Ce n'est pas sa meilleure surface.
Il y en a qui ne s'en sont jamais relevés de ça.
Couper, clairement. Oui, mais quand même, peut-être se refaire, se redonner une envie.
Il avait dit ça, il a arrêté 6 mois, il n'est jamais revenu au plus haut niveau.
C'est à double tranchant, peut-être qu'il ne reviendra pas à son meilleur niveau, mais peut-être retrouver une fraîcheur mentale qu'il n'a plus du tout en ce moment, parce que là, il traîne sa peine sur le court. C'est triste, c'était triste ce match aujourd'hui de Thiem, quand on connaît son niveau sur terre battue. C'était vraiment triste. Et si Camille a raison, moi, je dis tant mieux, parce que si c'est l'envie, elle reviendra peut-être, et dans ces cas-là, on trouvera peut-être le meilleur Thiem. Mais pour la retrouver, à mon avis, il faut couper. Il faut couper pendant un moment et revenir avec justement une envie de s'entraîner à nouveau et d'aller gagner des matchs.
Ce qui est difficile avec lui, c'est son jeu est quand même basé sur le physique. Donc, quand tu t'arrêtes trop longtemps, c'est extrêmement difficile. Alors qu'un Roger, c'est différent. Un Roger, il va garder son tennis. Dominic Thiem, ce n'est pas le même profil. Bon, à voir.
On a entendu le remède de Bertrand, c'est d'essayer de s'arrêter. Camille, pas tout à fait d'accord. Laurent non plus. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Laurent, à Dominic Thiem? Comment tu vois la suite?
Je n'ai pas de conseil à donner à Dominic Thiem, mais je pense que la seule chose qui me rend optimiste, c'est comment il ne se voile pas la face et il a verbalisé le problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à en parler. Il a parlé même de dépression quand même après l'US Open. Il a expliqué clairement qu'effectivement, c'était son rêve de gosse, qu'il a travaillé comme un chien pendant des années, des années, des années, que depuis qu'il est devenu professionnel, il a mis 5, 6, 7 ans en étant au top niveau avant de gagner un majeur. Et donc, il dit, voilà, il s'est retrouvé face à un espèce de vide. Et je pense qu'il a été surpris parce que peut-être que lui-même, il ne s'attendait pas à ça. Donc, ça l'a complètement pris de court. Mais au moins, il ne se voile pas la face. Et aujourd'hui, encore en conf de presse, après sa défaite contre Andorra, c'est marrant parce qu'il a employé quasiment les mêmes mots que ce que tu as dit, Camille. C'est-à-dire, il a dit, je sais que ça reviendra, je suis sûr que ça reviendra, mais juste je suis incapable de dire quand.
Toi, Camille, qui était joueuse, donc qui connaît les ressorts mentaux, est-ce que tu as eu, toi, des moments comme ça où ce n'était pas évident de rebondir, ou comment tu analyserais ça et qu'est-ce que tu lui dirais de faire ?
Alors, chaque carrière est différente. Effectivement, la gestion de gagner un grand chelem, je crois que ça a posé de problème à beaucoup de joueurs. Je pense à l'époque à Iva Maioli. Bon, après, on pense à Yannick. Donc, ça, c'est quelque chose de spécifique dont je ne peux pas parler. J'aurais bien aimé te répondre clairement, Adrien, mais ce n'est pas le cas. En revanche, je pense qu'à un moment donné, le fait d'être honnête avec soi-même, comme tu le disais, Laurent, c'est déjà une partie qui est gagnée parce qu'on peut identifier effectivement les mots. Après, il faut être bien entouré dans ces moments-là et s'autoriser le droit de ne pas être parfait pour essayer de rebondir. Mais ça fait partie de la vie d'un joueur de tennis, de se remettre en question et de gérer des gros clashs, des grosses remises en question et même des moments dépressifs. Il n'est pas l'unique personne à vivre ça.
Entre parenthèses, ça permet surtout de voir que les trois monstres que sont Nadal, Djokovic et Federer arrivaient à gagner, enchaîner des victoires en Grand Chelem, c'est monstrueux. Quand tu vois que arriver à en gagner déjà un deuxième, déjà rien qu'arriver à rejouer correctement quand on est Dominic Thiem, c'est difficile. Waouh.
C'est vrai, Adrien, tu as raison. Et Mats Wilander nous disait avant le début du tournoi que justement la normalité, elle apostrophe, c'est Djokovic, Federer et Nadal. Et la normalité, elle a plus loin normalité, c'est ce qui arrive à Dominic Thiem. Même si, et c'est vrai que d'ailleurs Thiem en a parlé aujourd'hui, Djokovic a eu un peu ce phénomène après sa victoire à Roland-Garros, parce que lui, son obsession, le truc dont il avait besoin, qui lui manquait, c'était de gagner à Roland. Et quand il a gagné, il a connu quand même ce phénomène-là. Il s'en est relevé, ça a mis presque 2 ans quand même. Alors, il a eu des problèmes physiques au coude aussi, mais il y avait quand même cette espèce, un peu la même chose que ce qu'a vécu Thiem, évidemment dans un contexte très différent, mais donc on peut s'en relever, mais c'est forcément compliqué.
Alors Bertrand, tu es sur mute. Vas-y.
J'ai eu un petit problème de connexion. Il s'en est relevé, Djokovic, parce qu'il a retrouvé l'envie dans une défaite contre Cecchinato en quart de finale à Roland-Garros. C'était l'ombre de lui-même depuis 2 ans. Ce match lui a vraiment fait mal parce qu'il a failli le gagner. Il a eu la haine, il est allé en conf de presse dans la petite salle. Il n'est resté pas longtemps, mais il était vraiment fou furieux. On a vu qu'il a retrouvé cette rage de vaincre et cette haine de la défaite. Et Nicolas Escudier m'avait dit à ce moment-là, tu vas voir, dans 15 jours, c'est lui qui gagne Wimbledon. Je lui ai dit non, c'est fou, il ne gagne pas Wimbledon, enfin dans un mois. Il ne gagne plus du tout. En ce moment, il m'a dit, tu vois, je suis pour moi grand favori de Wimbledon. Et il gagne Wimbledon, effectivement. Et derrière, il redevient le Djokovic qu'on connaît, gagne l'US Open aussi, et il est redevenu le numéro 1 mondial. Donc voilà, c'est Djokovic. Et comme tu l'as dit, Adrien, ces joueurs-là sont hors normes. On est habitué, malheureusement, depuis 15 ans, on dit, mais c'est facile, pour les têtes de série 1, 2, 3, jusqu'en deuxième semaine, c'est facile, ça commence à être un peu plus dur en huitième, en quart, mais voilà. Mais non, c'est pas facile. Ce qu'ils font est quelque chose d'absolument irréel, en fait, de se rendre ces tournois faciles en permanence, d'arriver en quart ou en demi facilement. Donc oui, on se rend compte avec les autres, avec Thiem, avec des Zverev, avec des Tsitsipas, que non, c'est difficile, avec des Medvedev aussi, que c'est très difficile et que ce qu'ils ont fait eux, il va falloir s'habituer, c'est pas la norme. On a eu ça pendant 15 ans, mais il va falloir revenir à une norme qui effectivement va être différente avec des joueurs qui vont avoir des hauts et des bas.
On passe à la deuxième partie de ce podcast avec la question qui fâche. La question qui fâche, aujourd'hui, on va évoquer Naomi Osaka, qui a énormément fait parler dimanche du côté de Roland-Garros. Avec cette question, faut-il exclure Osaka du tournoi de Roland-Garros ? Pour info, elle avait dit avant le début du tournoi qu'elle sécherait les conférences de presse. Elle a mis sa menace à exécution après sa victoire face à la Roumaine Patricia Mariatic, 6-4-7-6. Elle a écopé de 15 000 dollars d'amende, mais chose plus improbable, peut-être qui était inattendue, à 16h49, un communiqué de presse de l'ensemble des tournois du Grand Chelem est tombé pour expliquer que Naomi Osaka avait été informée que dans l'hypothèse où elle continuerait à manquer à ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s'exposerait à de nouvelles sanctions, y compris l'exclusion du tournoi, ainsi que déclenchement d'une enquête, etc. Ça peut aller beaucoup plus loin. Votre avis m'intéresse là-dessus. Est-ce que si Naomi Osaka continue à sécher les comptes de presse, il faut l'exclure ? Camille ?
Alors, je te dis un oui à 100%. Pourtant, parfois, on n'a pas trop envie d'aller en conférence de presse. En fait, j'hallucine complètement de cette liberté qu'elle prend. Et pourtant, j'adore cette joueuse. Elle a du charisme. Moi, ça va être une vraie star. Elle a quelque chose dans la raquette qui est au-dessus. Quand elle joue bien, elle explose tout le monde, un peu à la Serena Williams. Donc, c'est vraiment la joueuse qu'il faut suivre. En revanche, là, je ne comprends absolument pas. Bien sûr qu'on comprend parce qu'elle se dit, si je veux gagner ce tournoi, eh bien, les médias me font du mal. Donc, je vais arrêter de faire la presse. Mais on ne vit pas dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'elle a des devoirs. Pourquoi tous les autres joueurs doivent aller en conf de presse, même quand ils perdent? Et non, en fait, il faut prendre le package. Elle gagne très bien sa vie parce qu'il y a tout un business autour. En fait, et les joueurs, parfois, ils oublient aussi que c'est un écosystème qui est équilibré et que si on les embête à aller en conférence de presse, c'est pas juste pour leur faire du mal. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et on a l'impression qu'elle est complètement en dehors de ça. Et non, par rapport aux autres joueurs. Et puis, on voit que l'argent, effectivement, pour une joueuse comme ça, elle peut se dire, moi, tant pis, je paye. Non, mais en fait, il faut mettre d'amende monétaire. Il faut carrément dire, si tu vas pas, tu ne joues pas le tournoi. Et après, elle prend ses responsabilités. Si elle veut pas affronter les journalistes, elle ne joue pas au tennis. Ça fait partie du travail. Il n'y a pas que des belles choses dans tout job, hein, vous le savez tous. Il y a 80% de kiff et puis 20% qu'on n'a pas envie de faire. Mmh. Elle, c'est pareil. Et tout Osaka qu'elle est, elle doit respecter ça.
Laurent, ça t'a surpris, cette déclaration commune, cette unité des grands chelems qui se sont dit « il faut qu'on frappe du poing sur la table tout de suite, sinon ça peut être une porte ouverte pour que d'autres joueurs se disent « oh bah tiens, moi non plus, je ne veux pas y aller, là on met les choses au point tout de suite ».
L'unité des grands chelems sur ce plan-là, non, me surprend pas, parce que ce qui arrive à Roland-Garros aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe lequel des trois autres demain. Et d'ailleurs, Osaka, dans un mail qu'elle a envoyé à Guy Forget, et à Gilles Moreton, le patron du tournoi et celui de la Fédération française de tennis, a bien dit que c'était rien de personnel, ni contre eux, ni contre le tournoi, et que ça, en gros, ça aurait pu tomber ailleurs. Donc l'unité ne me surprend pas. Après, moi, honnêtement, exclure une joueuse parce qu'elle ne veut pas aller en conf de presse, l'exclure du tournoi, je trouverais ça, je ne veux pas dire grotesque, mais ça me navrerait, quoi. Sincèrement, je pense que ce serait assez consternant. Moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que je pense que tout le monde s'y prend très mal, et notamment Naomi Osaka. Je pense que je ne juge pas le fait, évidemment, c'est obligatoire, ça fait partie du boulot, mais je pense que si on se contente de balayer d'un revers de main et de dire « écoute, Naomi, maintenant tu nous saoules, donc tu prends tes amendes ou tu dégages », et que de l'autre côté, inversement, on dit « de toute façon, les confs de presse, ça ne sert à rien, c'est pourri, et les journalistes sont tous nuls et posent tous des questions débiles », on ne va pas aller bien loin. Donc moi, je pense que sur la question des conférences de presse, moi, je pense qu'il y en a trop dans le tennis. Je connais peu d'autres sportifs qui, à la fin de leur carrière, ont fait, comme Federer ou Nadal, auront fait 1000, 1100, 1200, 1300 conférences de presse, dont certaines ne servent pas à grand-chose. Je pense qu'il faudrait entamer une réflexion, trouver un moyen que les joueurs redeviennent un peu plus accessibles. Donc, à la limite, le fait de poser ce débat-là m'intéresse, moi. Mais je pense qu'elle s'y prend très mal. Je pense que moi, quand elle utilise une métaphore en disant que pour elle, une conférence de presse, quand elle a perdu et qu'on lui pose des questions, c'est comme si elle était à terre et qu'on la frappait, je suis complètement sidéré. Donc, je pense qu'elle a tort sur la forme. Maintenant, il faudrait peut-être que tout le monde se pose un peu, se calme un peu, parce que l'escalade, de toute façon, ça ne servira à rien. Alors après, en revanche, il y a un argument que Camille a avancé, auquel je suis très sensible, et qui me pose en fait vraiment problème dans ce que fait Naomi Osaka, c'est qu'elle le fait aussi parce qu'elle peut se le permettre. Et Naomi Osaka, prendre 15 000 $ d'amende, c'est un petit peu comme si moi, je perdais un billet de 20 € dans la rue. Ça m'ennuie, mais fondamentalement, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie. Si une joueuse ou un joueur qui est 150e mondial à l'ATP, pour les mêmes raisons ou d'autres raisons, n'a pas envie d'aller à une conférence de presse, il est probable qu'il ne puisse pas le faire. Ou alors, il est très courageux, parce que prendre 15 000 $ d'amende quand vous êtes 150e ou 200e mondial, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour Naomi Osaka. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les grands chelems ont voulu taper du poing sur la table, parce qu'ils se rendent bien compte que finalement, l'amende, pour une joueuse comme Osaka, ce n'est pas du tout dissuasif. Donc, ils sont obligés de taper très, très fort. Et elle, elle a répondu encore ce soir. Elle a fait un tweet il y a une petite heure pour dire, très laconique, elle parle de colère et puis elle dit le changement gêne les gens. Voilà, donc chacun y va de son communiqué, de son tweet, et je pense que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un cas comme ça. Donc, ça me fatigue un peu et je n'ai pas envie de parler de ça pendant 15 jours et ça me navre un peu, même si je suis d'accord, c'est au cœur de l'actu de Roland, mais c'est pas de ça dont on devrait parler, c'est ça qui est triste.
Avant de te donner la parole,
Adrien, je voudrais juste rebondir très rapidement. Une des solutions à ce problème pour ne pas débattre, moi je pense, c'est de mieux former les joueurs. Des gens mauvais, des gens excellents, il y en aura partout. Chez les joueurs, chez les journalistes, on pourra. Ça, c'est la base de la vie. En revanche, les réactions des joueurs sont souvent inadaptées à des mauvaises questions. Prendre un peu de légèreté, un peu d'ironie, un peu de, on va dire, de hauteur.
De langue de bois.
Non, mais justement, il y a des questions qui sont clairement parfois stupides. Mais de le prendre un peu en dérision, de le tourner en dérision, enfin, il y a plein de moyens pour les joueurs de ne pas être affectés et de renvoyer la nullité de la question à son auteur sans que ça soit vraiment très pénible pour le joueur. Et je pense qu'on est balancé en conf de presse tout jeune, sans être armé, parce que c'est la vie, on ne peut pas nous protéger des gens qui sont juste pas bons dans leur job, quoi. Ça arrive.
C'est un vrai problème du tennis. Les joueurs et les joueuses sont mis dans des bulles, dans de la ouate. Ils sont dans de la ouate totale. C'est-à-dire que ATP, WTA, bon, alors, en l'occurrence, ce n'est pas ça qui gère les grands chelems, mais les mettre dans des situations où ils sont complètement dans une bulle. On leur dit, allez, vous faites trois questions, mais les questions, il faut qu'elles soient bien. Il ne faut pas parler de tel truc. Ouais, Monte Carlo m'a dit, il ne faut pas parler de Roland Garros parce qu'on est à Monte Carlo. Il faut faire juste trois questions. Ils sont mis dans des bulles totales. Alors évidemment, ça les pousse déjà à faire de la langue de bois. Effectivement, s'ils avaient un peu plus de liberté, peut-être, si on avait le droit de parler comme ça aux joueurs dans un couloir. On n'a pas le droit de parler aux joueurs. Il ne faut pas parler, il faut demander avant. S'ils avaient un peu plus de liberté de s'exprimer avec les journalistes, peut-être un peu même en dehors des clous des organisations, ce serait peut-être déjà un peu moins fastidieux pour eux et pour nous aussi. Donc, après, il ne faut pas être manichéen. Il a raison, Laurent. Il y a, pour avoir fait pas mal de confs, il y a beaucoup de confs qui sont tout à fait normales. Il y a aussi, c'est vrai, en grand chelem, il y a des journalistes qui ne sont pas forcément des spécialistes du tennis. Il y a parfois des questions lunaires, il y a parfois des questions qui n'ont rien à voir avec la conférence de presse dans laquelle on est. Pour exemple, la finale de l'Open d'Australie 2017, vous vous souvenez quand même l'incroyable match Federer-Nadal. Moi, j'arrive en conférence de presse, je me dis, bon, ça va être, les questions, je les avais en tête. Les questions qui vont être posées en presse écrite, ça va être fantastique. Pas du tout. La première question était ridicule, n'avait rien à voir même avec le match, ni même avec les sensations éprouvées par Federer après sa victoire. C'était zéro. Et ça a continué comme ça. Cette conférence était lunaire, honnêtement. C'est que quand les radios ont pris la parole qu'on a commencé à avoir des questions intéressantes. Donc, je peux comprendre les joueurs ou les joueuses parfois de se dire, mais c'est pas possible, ils connaissent rien au tennis. Pourquoi il y a ces conférences? Mais à côté de ça, il y a aussi d'excellents journalistes, il y a aussi parfois d'excellentes conférences. Donc moi, je ne suis pas du tout pour l'exclusion de Naomi Osaka. Je suis pour effectivement des sanctions financières qui seront peut-être de plus en plus importantes, même elles peuvent être très importantes pour elle. Pas pour l'exclusion, parce que le débat doit aussi s'ouvrir par rapport à ça. Et moi, je dirais qu'on prend peut-être le problème à l'envers. Si demain, tous les journalistes, ça ne se fera pas évidemment parce que c'est impossible, mais si tous les journalistes du monde entier, y compris les Japonais, disent « Ok, elle ne veut pas nous parler ?» Ben nous, on ne lui parle plus, on ne la sollicite plus. Si elle n'est plus sollicitée par un journaliste au monde, à partir de demain, plus personne, après ses matchs, en dehors des matchs, etc. Qui va être le plus embêté ? Ce n'est pas les journalistes, c'est elle, au bout d'un moment, parce que finalement, elle en a besoin des journalistes aussi. Quand elle plaide pour certaines causes.
Elle plaide pour sa com.
Oui, à New York, elle a quand même plaidé la cause de certaines, et des très bonnes causes d'ailleurs, en l'occurrence. Mais elle a besoin pour ça des médias, pour faire passer ce genre de message.
Le risque, c'est ça, le risque, Bertrand. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs les plus connus ont des tels réseaux sociaux, pour ne pas les citer, qu'ils ont presque plus besoin de relais comme peut-être les médias pour exister. Et ça, c'est un vrai problème aussi pour les médias. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ils maîtrisent complètement leur communication. Il n'y a plus de contradicteurs. Et elle, c'est complètement ça. Elle a dit, moi, je n'ai plus envie qu'on m'embête. J'ai dit non. Et pour ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure, le fait que voilà, là, on est chacun d'un côté et de l'autre à avancer ses arguments et à être dans la confrontation pure et dure. J'ai entendu cet après-midi Gilles Moreton, le président de la fédération, sur le plateau de France Télévisions, a dit qu'il avait essayé d'aller la voir avec Guy Forget à l'entraînement avant le début du tournoi et qu'il n'avait pas pu lui parler. Donc il y a quand même eu une démarche pour essayer d'aller lui parler, de lui expliquer, d'échanger des points de vue, et il y a eu une fin de non-recevoir.
Mais elle s'y prend. Je pense que sur la forme, c'est catastrophique ce qu'elle fait de toute façon. Moi, à la limite, je trouve que la classe ultime, ça aurait été qu'elle fasse une conférence de presse au début, avant le tournoi, pour expliquer qu'elle ne ferait pas de conférence de presse pendant le tournoi. Ça, je trouve que ça aurait un peu de gueule. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Bertrand. Moi, j'en ai parlé dans un papier hier. Ça ne peut pas être à la carte. C'est-à-dire, ou elle assume, je n'ai pas besoin de médias, je ne veux plus parler aux journalistes. Et voilà, j'en ai pas besoin. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais
tout le monde
que
fait ça, Laurent. Tu vois, ouais, c'est
Mais de toute façon, c'est l'avenir. C'est l'avenir, je pense. Regardez, ils ont tous leur chaîne Twitch. Dans la soirée
mais justement, il faut peut-être le combattre, ça, parce que les médias mettent
Mais pour ça, il faut que le journaliste montre qu'il est indispensable. Donc, il faut aussi que la qualité des conférences de presse soit supérieure. Il faut peut-être aussi que la TP et la WTA réfléchissent à de nouveaux formats. Pas dire trois questions formatées. Peut-être poser trois questions formatées. Ben non, parfois, on a envie d'avoir un peu plus, passer un peu plus de temps avec un joueur. Peut-être lui poser d'autres questions qui soient moins dans une espèce de ouate, comme ça, je vous dis, dans une espèce de cocon dans lesquels on les maintient dans du formol, là. Et ça devient une contrainte pour eux. Peut-être qu'ils préféraient finalement pouvoir s'exprimer plus largement et plus facilement avec les médias.
En tout cas, les pistes sont lancées de votre part. On verra comment évolue ce sujet. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Si on devait aller jusqu'à l'exclusion, c'est vrai que comme vous le dites presque… Non, Camille est peut-être pour l'exclusion. Mais ce serait dommage d'en arriver là, quoi. Ce serait dommage d'en arriver
là. Je suis pour, parce que sinon, tout le monde va faire pareil, en fait. C'est, donc, à un moment, il faut marquer le coup. Pour moi, ça fait partie de son travail, tout comme jouer au tennis. Mais mes amis ne sont pas d'accord avec ça. Mais,
c'est les devoirs à la maison.
Et voilà. À un moment, c'est le package. Hein, voilà, il n'y a pas que du bon et c'est la vie. Enfin, à un moment, pas dans du coton tout le temps. Quoi.
Bon. On va enchaîner avec le troisième thème de ce podcast sur les stats, la stat de Constance. Tous les jours, Constance du compte Twitter Je sais tes maths nous livrera une stat en exclusivité. Aujourd'hui, elle concerne Enzo Cuoco. Peut-être la connaissez-vous. C'est le jeune Français qui s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi. Il a fait honneur Enzo à sa première wildcard, puisqu'à 26 ans et bientôt 3 mois, Cuoco est le 7e joueur français le plus âgé au moment de remporter son premier match en Grand Chelem au 21e siècle. C'est assez incroyable. Le plus âgé, c'était Nicolas Thomann à Wimbledon en 2002. À l'époque, il avait 29 ans et 6 mois quand il a remporté son premier match en Grand Chelem. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. C'est quand même incroyable d'attendre 26 ans pour gagner son premier match.
Enzo était un joueur très prometteur en junior à l'âge de 18 ans. Et j'ai eu l'occasion de le côtoyer sur un tournage qu'on avait fait pendant 15 jours pour la préparation de l'Académie Mouratoglou dans laquelle il était à l'époque en 2012. Très prometteur, avec un très très bon revers. Il était un peu moins bon au coup droit, mais il était vraiment parmi les joueurs qu'on espérait qu'il allait vite éclore. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte aussi qu'une carrière de joueur professionnel de tennis, c'est très difficile. Jusqu'à 18-19 ans, on peut être très fort et puis on peut quand même galérer après. Il a galéré beaucoup. Et depuis un an et demi, deux ans, je trouve, il est vraiment en train de revenir à un très bon niveau. Il joue très bien en Challenger. Il en a gagné un d'ailleurs cette année. Il a fait finale, je crois, récemment aussi, la semaine dernière, je crois, en Challenger. Il revient petit à petit à un très bon niveau. Et moi, je suis vraiment ravi qu'un joueur, justement, qui a été un joueur prometteur en junior, mais qui n'a pas confirmé tout de suite, parviennent quand même à 26 ans, grâce à une wildcard, à gagner un premier tour à Roland-Garros face à Gerasimov. Ce n'est pas un match facile, parce que c'est un joueur quand même assez expérimenté. Et j'espère qu'il va pouvoir confirmer. En tout cas, déjà, ça me fait plaisir. Et c'est un one-shot à 26 ans, donc ça sera peut-être, un premier en tout cas, donc ça sera peut-être compliqué pour lui de poursuivre, mais ça montre que ceux qui ne lâchent pas, même s'ils ont des débuts de carrière difficiles, on peut arriver à un moment donné quand même en grand chelem à gagner un match. Peut-être que ça va lancer une deuxième partie de carrière pour lui meilleure et qu'il arrivera enfin, je l'espère, à rentrer dans le top 100.
Tu as raison de préciser en grand chelem, mais on pourrait même dire en carrière. C'est-à-dire que c'est sa première victoire dans un tournoi principal. Il avait joué un premier tour à Montpellier l'année dernière qu'il avait
c'est
perdu.
C'est son deuxième match.
C'est fou.
Deuxième match, c'est fou quand même. Et comme tu disais, battre Gerasimov qui est quand même 78e mondial, lui il est 177, il y a 100 places d'écart, il le bat en 3-7 sans difficulté, c'est assez incroyable. Et on enchaîne sur la dernière partie de ce podcast avec l'affiche du lendemain. L'affiche dont on va discuter concerne évidemment celui que l'on attend tous du côté de la Porte d'Auteuil, c'est Roger Federer qui sera opposé à l'Ouzbek Denis Istomin, 203e joueur mondial. Les deux joueurs se sont déjà affrontés à 7 reprises pour 7 victoires de Federer. La dernière, c'était déjà au premier tour d'un grand chelem à l'Open d'Australie 2019. Alors, est-ce que Federer, malgré son peu de matchs dans les jambes, doit craindre Istomin ? Camille ?
Alors, vu le peu de matchs qu'a fait Roger et son seul match sur terre battue, forcément, il faut qu'il fasse attention. Après, je dirais que Istomin, alors même s'il sort des qualifications, il a quelques matchs dans les jambes, il y avait pire pour Roger sur un premier tour. Honnêtement, moi, j'avais peur d'un joueur comme un Musetti, Lorenzo Musetti, qui a joué incroyablement bien à Lyon, qui n'est pas tête de série.
Ou Alcaraz.
Donc, voilà, je pense qu'il y avait pire pour Roger.
Ouais, je pense qu'on ne peut pas du tout savoir ce qui va se passer. C'est difficile de savoir. Alors, Istomin a l'âge de Nadal, hein, donc 35 ans bientôt, c'est pas un gamin. J'ai regardé son parcours en qualif, il n'est pas mauvais, il gagne 3 matchs, perd un set seulement, donc 3 bonnes victoires. C'est un joueur qui a de l'expérience. Bon, il a gagné que 2 fois en 37 confrontations face à les top 10, donc c'est pas énorme, mais il a battu Novak Djokovic quand même en grand chelem dans la fameuse période difficile du Serbe à l'Open d'Australie en 2017. Il a perdu Serbie cette fois face à Federer, mais évidemment ça va dépendre de Federer. Moi, je pense que l'entame de match va être importante. Si Federer, par exemple, fait un bon premier set, il arrive à gagner, je ne sais pas, 6-3, enfin, qu'il fait un set de qualité, ça devrait le lancer, le mettre en confiance, et je ne le vois pas après galérer trop contre Istomin. Si par contre c'est un premier set disputé, par exemple, où il break, puis il se fait débreaker, puis il perd au tie break, ça peut se compliquer parce qu'il y a tellement peu de matchs, tellement peu de confiance du coup à cause de ça, que peut vite dans la tête aussi commencer à se mettre en difficulté, comme face à Andorra. Le match contre Andorra à Genève, il est intéressant. Il joue extrêmement mal au premier set, c'est assez logique, hein, il est physiquement pas dedans du tout, les jambes bougent pas. Il commence à rentrer dans son match, on a du vrai Roger pendant certaines périodes. Il gagne le deuxième set jusqu'à la moitié du troisième, il joue vraiment très bien, il mène 4-2 au troisième, et puis là il coule sur les 4 derniers jeux, parce que justement il y a ce manque de compétition, il y a ce manque de rythme, ce manque de gestion. Et même si c'est Federer, ben, c'est pas facile de gérer des fins de match quand on n'a pas joué depuis très longtemps, et il se met à peut-être à cogiter et perd les 4 derniers jeux, donc je monte très mal à nouveau. Bon, donc là c'est sur une durée plus importante, un match au meilleur des 5, c'est peut-être plutôt bon ça pour Roger, mais je crois quand même que l'entame va être importante. Il faut qu'il prenne le score, il faut qu'il prenne le premier set, et ça devrait bien se passer. Mais je n'exclus pas une possibilité de galère, encore une fois, face à Istomin, de par le fait qu'il a très peu de matchs et qu'on a très peu d'informations, finalement, sur le Suisse.
Les 5-7, toi, tu dis, Bertrand, que c'est un atout. Laurent, malgré le peu de compétition qu'a Roger dans les jambes, ça reste quand même un atout.
Ouais, je pense qu'en tout cas, ce ne sera pas… je suis pas tellement… Alors évidemment, s'il doit jouer 5h30 demain, ce sera compliqué, mais ce sera compliqué pour Istomin aussi. Mais ça ne m'inquiète pas tellement pour lui. Je ne pense pas que Federer doive avoir peur d'Istomin. Tout ou presque dépendra de Federer demain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est son manque de rythme. Il n'a pas joué pendant 13 mois, il est revenu, il a joué 2 matchs, il s'arrête pendant 3 mois, il revient, il joue un match. Bon. Même quand on est aussi génial que Roger Federer, il y a un moment donné, le rythme de la compétition, il n'y a rien qui remplace ça, et les sensations de la compétition. Et c'est vrai qu'il a les 2 matchs qu'il a perdus, que ce soit à Doha contre Basilashvili, si je ne me trompe pas.
Je crois que c'est oui, c'est ça. Il a gagné le tournoi. Voilà.
Et contre Andorra, il ne prend pas de raclée. C'est 2 matchs qu'il peut et presque qu'il doit gagner. Mais sauf qu'à un moment donné, il paye les habitudes qu'il a perdues. Donc, faire un coup droit, faire un revers, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais gagner un match quand c'est compliqué, dans un troisième set ou en grand chelem, dans un quatrième ou un cinquième, c'est autre chose. Et il y a beaucoup de témoignages de gens qui se sont entraînés avec Federer, qui disent qu'ils sont, ils le trouvent très bien, il a du rythme, il est bon. Mais sauf que c'est incomparable avec la compétition. Et je pense que moi, à la limite, je pense que Roland Garros, il n'a pas des ambitions folles, Federer, mais… Avant d'arriver à Genève, il avait dit « Mon objectif, ce serait d'arriver à Wimbledon en ayant joué dans l'idéal une dizaine de matchs. » Donc, je pense qu'il espérait en jouer 2-3 à Genève, 3 ou 4 à Roland, et puis 3 ou 4 à Halleux, j'imagine, qu'il va jouer à Halleux. Bon, pour l'instant, il en a joué un à Genève. S'il devait perdre au premier tour à Roland demain, ça m'inquiéterait, à la limite, je serais déçu pour Roland Garros, pour le tournoi, mais je serais surtout inquiet pour ses chances d'être performant à Wimbledon, même si le gazon n'a rien à voir, mais parce qu'il a besoin de jouer, peu importe la surface pour l'instant, il a besoin de jouer, d'enchaîner des sets, des matchs. Et c'est ça son problème, et ça risque d'être son problème ici. C'est pour ça que ce serait vraiment important pour lui qu'il passe, allez, on va dire au moins deux tours ici.
Quand l'idole de Laurent, il y a quelques années, a fait l'impasse sur Roland Garros pour essayer d'enfin gagner Wimbledon, ça n'a pas été une réussite parce qu'il n'avait pas les matchs de Roland Garros. Il manquait de rythme de compétition. Il est allé loin, mais il n'a pas gagné. Il n'a jamais gagné ce tournoi d'ailleurs.
Surtout quand on voit que c'est Andrés Gomez qui a gagné.
Oui, et à Wimbledon, il n'a jamais gagné. Hein, donc, Ivan Lendl, en l'occurrence.
Oui.
Désolé, Laurent. Petit coup au cœur là.
Pour voilà, mais ne pleure pas, Laurent. Ne pleure pas.
C'est même le coup de poignard dans le dos là.
En tout cas, le Suisse est très attendu. On l'a vu déambuler dans les allées de Roland-Garros dimanche, suivi par une horde de fans qui cherchaient à avoir une photo, un selfie ou même à toucher l'idole. Donc, on ne doute pas que lundi, quand il va rentrer sur le court, il y aura du monde pour accueillir Roger, qui jouera en troisième rotation sur le Philippe Châtrier. Avant de vous laisser, on va faire un petit pronostic juste sur ce match-là. Si vous avez le vainqueur, vous marquez un point. Si vous avez le bon score en termes de 7, vous avez 2 points supplémentaires. Camille.
Federer en 4.
Bertrand.
Federer en 4.
Et alors, pas drôle, je voulais dire Federer en 4 aussi. Donc
c'est pas drôle.
Demain, c'est moi qui commence. Federer en 3. Allez, soyons fous. Federer en 3.
Tu dis Thomas en 3, tu peux aussi marquer des gros points. Hein.
Ça, c'est vrai, ouais. Ça.
Je prends Henri, vas-y.
Je dis Thomas, désolé, je prononce à la française, ça m'a toujours amusé.
Allez, merci. Merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve du coup demain pour débriefer une nouvelle journée de tennis. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, bye bye, ciao.